Soyez au cœur de l'info sur...
Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale sur le Niger où nous nous penchons sur les événements qui secouent le pays depuis le putsch du 26 juillet. Des pressions exercées par les partenaires occidentaux et africains pour un retour à l'ordre constitutionnel s'intensifient, tandis que la France est également sous les feux des militaires et des partisans du coup d'État. Mais quels sont les effets de cette crise sur les Nigériens et la région du Sahel? Les coups d'État militaires sont-ils une solution aux multiples problèmes de cette région? Avec nos invités, nous abordons cette discussion approfondie sur les enjeux et les perspectives au Niger ainsi qu'au Sahel. Nous avons en ligne Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel de Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Bonsoir, monsieur Ould Abdallah. Monsieur Ould Abdallah, vous nous entendez? Nous avons un petit problème technique avec monsieur Ould Abdallah. On va revenir vers lui. Nous avons le docteur Ali Tunkara, directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Monsieur Tunkara, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue encore une fois dans cette émission. Nous avons Ould Abdallah en ligne. Monsieur Ould Abdallah, bonsoir. Il n'est pas là. On va continuer à le chercher. Nous aurons également Ibrahima Khan, analyste et spécialiste de l'Union africaine, qui sera avec nous. Merci donc d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on plante d'abord le décor avec ce reportage de Nanit Talani qui résume les développements politiques en cours et la réaction des manifestants pro-militaires sur l'ultimatum fixé par la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. Suivez.
Ces réactions interviennent au lendemain du sommet de la CEDEAO. L'organisation a pris des sanctions sévères contre la junte militaire nigérienne.
En attendant, les mesures suivantes doivent être appliquées avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Institution de la zone d'exclusion aérienne de la CEDEAO sur tous les vols commerciaux à destination et en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger. Gel de toutes les transactions de services, y compris les transactions énergétiques. Gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO. Gel des avoirs de l'État nigérien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales. Suspension du Niger de toute aide financière et transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BIWAD.
Les pressions sur les poutistes afin qu'ils rétablissent l'ordre constitutionnel sont de plus en plus fortes, venant de l'ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger. Mais dans le pays, les poutistes bénéficient d'un certain soutien de la population. Des partisans du coup d'État ont organisé une manifestation hier dimanche attaquant l'ambassade de France à Niamey.
C'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. Pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé.
Pour les organisateurs de la manifestation, l'événement a aussi été l'occasion d'adresser un message à la CEDEAO et à toutes les puissances qui incriminent les poutistes, dont la France, dont ils ont demandé le départ des troupes militaires du pays.
Cette marche est suivie de meeting du M62 et d'intimer la CEDEAO et la France et tous leurs alliés de ne pas intervenir militairement au Niger.
Les militaires nigériens accusent la France de vouloir intervenir militairement. Dans un autre communiqué, ils accusent les services de sécurité d'une chancellerie occidentale, sans préciser laquelle, d'avoir tiré dimanche à Niamey du gaz lacrymogène sur les manifestants soutenant la junte, avec pour conséquence 6 blessés pris en charge par les hôpitaux de la capitale.
Voilà donc les signes d'instabilité ou de tension qui se manifestent à Niamey. Le Niger a-t-il besoin de ce coup d'État, Ali Tunkara?
Quand on écoute les mutins, les raisons avancées pour légitimer ce coup de force, tiendrait difficilement à l'analyse. Quand on sait que le ténor de ce coup d'État est même au cœur de l'appareil sécuritaire il y a plus d'une décennie de cela, vouloir brandir l'absence de résultats de la lutte contre le terrorisme et au même moment d'être parmi les acteurs clés en termes délivrants de sécurité sont entre autres des éléments qui pourraient difficilement justement avoir des assises analytiques. Mais que cela ne tienne, lorsqu'on regarde de manière beaucoup plus poussée, on s'aperçoit quand même par moment et par endroit que le président Bazoum a dit signer la venue massive de militaires occidentaux, donc des différents contingents des pays occidentaux, sans pour autant effectivement et réellement associer une certaine élite militaire dans la réflexion même dans les tenants et les aboutissants de cette rue de forces armées occidentales vers le Niger. Cet élément apparaît quand même important. Il faut comprendre un peu le pourquoi d'une telle grogne née au sein de la hiérarchie militaire nigérienne.
Mais, M. Tunkara, il existe un programme avec les Nations Unies sur la sécurité qui implique le haut commandement de l'armée et toute l'élite militaire qui participe toujours à ces programmes. Ils sont impliqués de A à Z.
Alors, si vous regardez plus de 1200 militaires français, plus de 800 militaires américains et d'autres nationalités comme des troupes allemandes, même italiennes et d'autres, naturellement, il y a quand même un pléthore. Il serait peu hasardeux de dire que l'avenir de ces différents contingents était fait de concert avec une certaine hiérarchie militaire. Pour rappel, lorsqu'on interagissait avec une certaine élite militaire nigérienne dans les couloirs, et naturellement, une certaine partie de l'élite n'avait jamais hésité de manifester son mécontentement, à la limite, son rejet de la manière dont le président Bazoum a créé l'avenir de ces troupes non africaines au Niger. L'autre élément important également, c'est vrai que ces différentes forces étrangères apportent un soutien indéniable à l'armée nigérienne tant dans la fourniture de renseignements, mais également en termes de formation à l'endroit des éléments de protection de sécurité, mais qu'à ça ne tienne si vous observez de manière effective. Le président Bazoum lui-même, quand il venait à la tête du Niger, il avait réitéré à plus d'un titre sa réticence à ce que les troupes étrangères soient sur le sol nigérien. Mais on a vu au fil du temps, le président Bazoum était revenu sur une telle perception qu'il avait de l'offre de la demande de sécurité qui pouvait venir des pays occidentaux. Donc, pour dire que le changement d'attitude dont le président a fait l'objet vis-à-vis des forces étrangères en termes de présence physique, il est quand même un changement qui en dit long. D'où cette hypothèse qui consisterait à dire que l'avenir avec un tel nombre pléthorique de forces étrangères sur le sol nigérien ne serait pas une venue concertée, discutée et surtout acceptée par une certaine élite militaire nigérienne.
Nous avons Ahmedou Ould Abdallah en ligne. Monsieur Ould Abdallah, bonsoir.
Bonsoir.
Le Niger a-t-il besoin de ce coup d'État?
À mon avis, non, pour plusieurs raisons. D'abord, il a eu plusieurs coups d'État avant. Le premier, en avril 1974, il répondait à l'époque à une situation dramatique, celle de la sécheresse qui s'est vissée dans le Sahel et qui a détruit et beaucoup de régions et à l'origine d'une forte migration des populations les plus affectées. Ce coup d'État, qu'on peut ne pas justifier, répondait quand même à une crise. Je crois qu'après plusieurs autres coups d'État, dont certains amenaient à la mort le chef de l'État de l'époque, celui-ci n'était pas nécessaire, surtout à l'ère où nous avons les médias comme les vôtres, la transparence internationale. La plupart des Nigérians, de tous ceux qui s'intéressent au Niger, en Afrique de l'Ouest, et de tous nos partenaires, qu'ils soient d'Asie, d'Europe ou d'Amérique, savent les relations entre les principaux protagonistes. Le président Bazoum, le chef de la sécurité présidentielle et l'ancien président Mahmoudou Youssouf. Donc, les gens connaissent ces problèmes. Alors, la question qui se pose, est-ce que le coup d'État actuel est un problème de personne avec recherche d'une couverture de sécurité? Est-ce que c'est vraiment un problème de sécurité? Et quel est l'impact surtout sur des pays comme le Nigeria qui ont joué un très grand rôle à l'époque des crises du Libéria, et j'étais présent dans la région, en Côte d'Ivoire et plus tard au Sénégal, pour les Nations Unies comme représentant spécial en Afrique de l'Ouest. Donc, la question qui se pose, est-ce que ce coup d'État aurait pu être réglé de manière sociale, diplomatique, politique, parce qu'il oppose trois personnes qui se connaissent et qui ont travaillé ensemble pendant 10 ans. Et voilà ma question. Donc, c'est très tôt peut-être pour en tirer une conclusion, mais j'espère qu'il y aura un règlement pacifique et que le Nigeria, qui est un voisin...
On va y arriver, monsieur Old Abdallah. Le Niger est le troisième pays de la région à subir un coup d'État depuis 2020. En quoi le contexte du Niger est-il différent de celui du Mali et du Burkina? Les trois voisins sont tous minés par les attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Monsieur Ould Abdallah, très rapidement.
Et très rapidement, le coup d'État de Guinée est complètement différent. Un président expérimenté a pris un engagement de ne faire que 2 mandats, il a voulu en faire 3, sans raison apparente, et donc l'armée est intervenue et ça pouvait répondre à une demande implicite ou ouverte de la population. Au Burkina, ce n'est pas un coup d'État, il y a eu 2 ou 3, depuis la chute du président élu. Au Mali, il y a un vrai problème de sécurité, plus un problème ethnique. Il ne faut pas oublier les problèmes aussi tels qu'ils sont. Le Mali, il y a un problème nord-sud, il y a un problème militaire, il y a un problème sécuritaire. Et même dans le problème sécuritaire, il y a un problème d'une ethnie, pour parler rapidement, de peuples. Et tels qu'ils sont perçus, je n'ai pas de connaissances profondes pour porter un jugement. Le Niger sortait d'une période intéressante où un président a pris un premier ministre d'une minorité pendant 10 ans. Et c'était un exemple d'intégration qui réjouissait tout le monde. Il a pris un compagnon qui est d'une autre ethnie et il l'a aidé à être président. Ça a donné une idée d'alternance. Le Niger se présentait un peu comme un modèle d'intégration ou d'alternance ethnique. Et tout d'un coup, nous revenons à la case de départ. Telle est ma perception.
Merci, Ali Tonkara. En une minute, en quoi le contexte du Niger est-il différent de celui du Mali et du Burkina?
Alors, pour justifier les coups d'État. Si l'on regarde les différents acteurs qui ont soutenu le coup d'État au Mali, naturellement, c'était des hommes qui venaient de Tchad sensibles, les mêmes également pour le Burkina Faso, donc c'était des hommes du terrain. Contrairement pour le cas nigérien où la grogne est terminée à partir de la garde prétorienne. Donc, pour dire que, effectivement, en termes de profilage, les trois acteurs seraient différents. Mais je pense que, s'agissant de ce que dit disait M. Ahmed Ould, on ne peut pas saisir l'instabilité chronique dont le Mali fait l'objet, qui serait à l'origine aussi de cette répétition des coups d'État. Un peu au nord-sud, ce serait de méconnaître un peu les causes profondes qui sous-tendraient les différentes rébellions que connaît le Mali. De même également, l'ethnicité est un peu légère quand même pour la saisie du phénomène de l'extrémisme violent et même du terrorisme dans le centre du Mali en particulier, la raison de Mouti fait l'objet. Donc tu connais aussi comment la région a été embrasée par les hommes de Hamid Koucha à travers l'immixion du Diaragal. Donc je pense que vouloir à tout bout de champ se faire l'ethnicité au sur nord-sud, ça pourrait ne pas aider l'analyse à être lucide. Je pense que fondamentalement, pour revenir sur la question, le Mali et le Burkina, ce sont des insuffisances dont les hommes qui sont sur les théâtres sensibles ont dit justifier leur coup de force, le fait que l'élite politique était à la limite complice de la non-acquisition d'un certain nombre d'équipements, le fait que l'élite politique au pouvoir n'était pas autant soucieuse du sort de ces hommes sur les théâtres sensibles. Mais pour le cas du Burkina, effectivement, je reconnais avec M. Ahmed Ould que on a plus affaire à des frustrations individuelles, même si celles-ci ont fini par avoir un habillage nationaliste ou ces frustrations ont fini par avoir un ancrage local. Donc je pense qu'il est quand même que tout coup d'État est dans l'obligation de soutenir un argumentaire. Maintenant, la pertinence ou la non-pertinence de l'argumentaire soutenu par les mutins varie d'un interlocuteur à un autre et varierait également en fonction du positionnement géopolitique et géostratégique dont les acteurs font l'objet.
Monsieur Tonkara, on va essayer d'être bref, le temps file. Les pressions internationales se multiplient pour un retour à l'ordre constitutionnel, mais quelles sont les conséquences potentielles si la junte militaire ne cède pas ? En une minute.
Concrètement, à défaut d'accepter ce qui. La demande, elle est quand même à peu de chances d'aboutir, mais vouloir aujourd'hui recourir à la violence pour ramener le président Bazoum à ses fonctions initiales, ce serait un carnage. Pour qui connaît la ruée aujourd'hui dont les militaires mutins bénéficieraient vis-à-vis du peuple nigérien.
Ahmedou Ould Abdallah, la CDAO a évoqué un éventuel recours à la force pour restaurer l'ordre constitutionnel. Monsieur Tonkara vient de parler de certaines des implications d'une intervention militaire régionale dans cette crise politique. Donc ces militaires qui ont une monnaie d'échange, l'avis du président Bazoum.
Oui, alors, une fois de plus, je reviens rapidement. Le Mali a eu des crises depuis 63-64.
Il nous reste très peu de temps, monsieur Ould Abdallah.
Pour le Niger, je pense que la position du Nigeria est une position de conviction. Elle a besoin d'un appui diplomatique de la CDAO, mais avec au sein de la CDAO, mais avec le Bénin, je n'ai pas de doute. Connaissant ce pays avec dans lequel j'ai travaillé longtemps sur la relation Cameroun-Nigeria, que le président élu du Nigeria ne joue pas au bluff, qu'il est déterminé à mettre en avant le projet qu'il a fait, pression économique, une semaine, et il est probable qu'il intervienne, et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, qu'on trouvera un accord entre les trois protagonistes, le président qui vient d'être renversé, le nouveau président militaire et l'ancien président Issoufou. Les trois sont proches et ils savent comment régler ce problème. Il ne faut pas que le Niger et la région soient pris en otage. Ils sont trois, ils ont travaillé ensemble 12 ans, ils peuvent le régler. Et nous sommes entre nous, nous ne devons pas les librement et franchement.
Une autre question.
Problème nord-sud, est-ouest, France ou impérialisme ou islamisme, c'est trois personnes qui doivent gérer ce problème.
Une autre question pour vous, M. Ould Abdallah. Le malaise de fond qui a conduit à la cible de la France par les militaires et les manifestants pour coup d'État, est-il réel ou est-ce une perception erronée de l'opinion publique au Sahel ? Alors, en une minute.
Ça, merci beaucoup. La France, depuis 2 ou 3 ans, à cause de la communication de Paris vers l'Afrique, qui ignore l'importance des réseaux sociaux, est une catastrophe. Non pas pour la France, c'est un grand pays, il peut survivre, mais pour nos relations, nous, Africains, avec la France, et pour nos pays, parce qu'on a d'autres choses à faire que d'être pro ou anti-français. Donc, le problème pour moi, et je l'ai dit à des amis français, il faut que la communication de Paris change complètement et sache que les décideurs ne sont plus ceux qui écoutent. Mais c'est l'homme de la rue qui s'ennuie à mort et qui a les réseaux sociaux qui manipule. Donc j'espère que la France va changer de communication vis-à-vis de l'Afrique. Ce n'est plus l'Afrique d'il y a 3 ans, c'est l'Afrique de WhatsApp.
Ali Tonkara, certains analystes considèrent à tort ou à raison que les coups d'État militaires peuvent être un moyen de renverser des régimes corrompus. Mais quel risque cela entraîne-t-il pour la démocratie et la gouvernance dans la région du Sahel?
Alors, tu sais, ce qu'on pouvait reprocher à certains politiques, les mêmes reproches restent quand même aussi valables face à une certaine élite militaire qui a pu être aussi comptable de ce qui se passe au Sahel, tant en termes de malveillance financière, de même également de cette situation sécuritaire délétère et qu'on était le Sahel. Donc, pour dire que vouloir à tout bout de champ lier l'efficacité en termes de gouvernance à la appartenance du corps, qu'on soit civil ou militaire, ce serait du simplisme à mon avis. Donc, en somme, il serait pertinent, dans le contexte sahélien, de comprendre le coup d'État à partir du contexte propre aux États, mais dans le même temps, de se dire qu'attention, la gouvernance, au bout du tunnel, elle a quand même besoin de règles. Une fois que les règles sont fixées, qu'on soit militaire ou qu'on soit civil, il est la responsabilité de chacun d'y rester conforme. Sans laquelle conformité, malheureusement, on va assister à une série de pagailles. Quand on arrive à un cinquième, sixième coup d'État, ça sous-entend que malheureusement, les coups de force ne sont pas tout bout du champ des réponses comme les penseraient.
Une minute pour vous, Ali Tonkara. Il y a eu le G5 Sahel, on voit qu'il se disloque. Quelles sont des répercussions éventuelles sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel en raison de ce coup d'État au Niger?
Alors, objectivement, il faut quand même le répondre. La force conjointe, même si d'autres organisations ont eu des succès, la force conjointe, en toute objectivité, elle n'a pas comblé les attentes des Sahéliens. Pour des raisons aussi, pas ça géopolitique, quand on regarde comment cette force est soutenue par des partenaires non africains et de même également comment les États eux-mêmes du G5 Sahel n'accepteraient pas parfois que des patrouilles conjointes soient menées sur des territoires outre que des pays qui seraient en proie aux attaques terroristes. Ça, ce sont des difficultés liées au cliché, au préjugé entre les États, malheureusement, qui n'ont pas permis d'abord à la force conjointe entre les armées sœurs de vous lier de bonnes sœurs. Mais dans le même temps, surtout, l'épineuse question de la dépendance de cet organe sous-régional à des pays non africains, le fait que la part ou la responsabilité de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest dans la mise en place de cet organe a été quasi marginale. Toutes ces raisons ont fait que la force conjointe n'a pas pu obtenir les résultats dont beaucoup comptaient qu'elle allait obtenir.
Ould Abdallah, en quelques secondes, comment soutenir une résolution pacifique de cette crise tout en se penchant sur les problèmes sous-jacents de la région du Sahel?
Merci. Je pense, comme je l'ai dit au début, que cette crise, la population du Niger, les forces de sécurité du Niger sont probablement otages d'un malentendu ou des divergences entre 3 leaders de ce pays, l'ancien président Youssoufou, l'actuel officier général qui a pris le pouvoir,
Abdourahmane Tchiani,
le président Bazoum. Si ces 3 qui se connaissent comme une chemise de corps se mettent ensemble, et qui peut les aider? Peut-être le président
Merci. Il y a aussi le président tchadien qui a commencé sa médiation, mandaté par la CEDEAO. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette émission spéciale sur le Niger. Merci à Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.